le supplément de l'info. Une émission qui analyse et décrypte l'actualité.
Le supplément de l'info avec Esma Fedala.
Sur Radio Algérie Internationale.
Bonjour à vous tous, merci de nous rejoindre sur les ondes de Radio Algérie Internationale. Bienvenue pour ce nouveau numéro de votre émission, le supplément de l'info. Où en est la situation après le cessez-le-feu entre l'Iran et Israël? Assiste-t-on à l'émergence de nouveaux codes de gestion des conflits ou à une nouvelle phase d'instabilité? Pour répondre à toutes ces questions et à bien d'autres, est avec nous Karim Belkacem, analyste géopolitique et professeur en géopolitique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais avant, place à notre première rubrique, les incontournables.
Les incontournables.
Les bombardements n'ont probablement retardé que de quelques mois le programme nucléaire iranien, mais ne l'ont pas éliminé. Ce sont là les conclusions d'un rapport préliminaire des renseignements militaires américains relayés par la CNN et le New York Times. Le rapport contredit les déclarations de l'administration qui ne cesse de marteler que ces frappes ont totalement anéanti les installations en Iran. Le document de 5 pages classé confidentiel a fait beaucoup de bruit car il a été rédigé par la Defense Intelligence Agency, le service de renseignement du Pentagone. Ses conclusions ont été rendues publiques par CNN et confirmées par d'autres médias. Les sources des journalistes qui ont eu accès au document soulignent bien qu'il s'agit d'une première analyse incomplète de la situation, concentrée surtout, selon le New York Times, sur le site enfoui de Fordow. L'entité sioniste a lancé une agression contre l'Iran le 13 juin en menant des frappes aériennes sur les sites nucléaires, militaires et résidentiels de l'Iran, qui ont entraîné la tombée en martyre de centaines d'Iraniens, dont de hauts commandants militaires, des scientifiques nucléaires et des citoyens ordinaires. De leur côté, les forces militaires iraniennes ont immédiatement lancé des ripostes. La force aérospatiale du corps des gardiens de la révolution islamique a mené 21 vagues de frappes de missiles en riposte à l'agresseur sioniste dans le cadre de l'opération Promesse Honnête 3, infligeant de lourdes pertes à l'entité sioniste.
Je rappelle que Karim Belkacem est notre invité. Vous êtes analyste en géopolitique et professeur en géopolitique. Alors, première question, est-ce que l'objectif des frappes sionistes en Iran est atteint?
Alors, lorsque vous entendez les discours de Trump ainsi que le vocable occidental des médias ou politiques, on va vous certifier que les opérations américaines et israéliennes ont été couronnées de succès et que l'Iran, par conséquent, est désormais hors d'état de nuire pour un bon moment dans le cadre de ce programme nucléaire. Bien entendu, il faut être beaucoup plus nuancé et surtout objectif. Pourquoi ? Parce que l'objectif de détruire le programme nucléaire iranien est un échec total, car les sites visés n'ont pas été autant endommagés que l'espéraient certains responsables de l'administration Trump, par exemple. Et même pire, Téhéran aurait conservé le contrôle de la quasi-totalité de son matériel militaire. Par ailleurs, l'objectif de renverser le régime iranien, également renforcé par le soutien de la population qui n'apprécie pas forcément le régime, c'est un objectif qui est un échec flagrant. Il faut rappeler que l'Iran est un État souverain qui ne se soumet en aucun cas à des forces extérieures. Par ailleurs, pourquoi c'est un échec? Parce que les Iraniens ont effectué une riposte à la fois calibrée et stratégique, et des cibles militaires et politiques ont été touchées en Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aucun lieu israélien ne peut être protégé malgré la présence de ce drone de fer que l'Iran a quand même sacrément endommagé. Donc c'est une humiliation pour l'État sioniste, car en plus il était militairement exempt et donc il avait besoin d'un cessez-le-feu pour se réapprovisionner en missiles. Donc, la conclusion de tout cela, c'est que c'est un échec flagrant à la fois pour l'État sioniste et à la fois pour les États-Unis.
Oui. Alors, selon plusieurs spécialistes, cette guerre va redessiner la carte géopolitique de la région. Êtes-vous d'accord?
Alors, je n'emploierai pas forcément le terme redessiner, mais ce qui est certain, c'est que le mouvement de déstabilisation va se poursuivre. Je comparerai la région à un volcan qui, à un moment ou un autre, se réveille. Dans ce cas présent, en termes géopolitiques, il ne va pas se réveiller de manière naturelle, puisque vous avez toujours l'influence occidentale qui va permettre, je dirais, l'ébullition de la région. Je poserai la question suivante, quid de la réaction des Houthis, quid de la réaction des autres pays arabes sunnites. Il faut quand même préciser que les accords d'Abraham sont quasiment fragilisés, que ça risque d'accentuer davantage les divisions entre les pays arabes. Et surtout, on oublie malheureusement le destin de Gaza et de la Palestine, parce qu'il est évident malheureusement que M. Netanyahou va reprendre ses mauvaises habitudes dans la région, finir le travail de ce qu'il a déjà entrepris dans ce génocide à Gaza et occulter d'une manière définitive le problème palestinien. Donc quelque part, oui, ça va redessiner la carte géopolitique de la région, mais ça va être simplement le prolongement d'un mouvement de déstabilisation qui opère depuis déjà pas mal d'années.
Oui, parlons un petit peu de l'implication des États-Unis dans cette confrontation Israël-Iran. On parle de l'implication de Trump dans cette guerre et en même temps du souhait du président américain de se désengager du Moyen-Orient. Nous avons du mal à comprendre cette position. Est-ce que ce n'est pas contradictoire ?
Alors ça l'est totalement, c'est totalement contradictoire et que l'on ait du mal à comprendre la politique de Trump, c'est évident. Pourquoi ? Il faut bien analyser la pédagogie de Donald Trump, c'est quelqu'un, plutôt la psychologie, c'est quelqu'un d'imprévisible et changeant et de par sa psychologie, il brouille l'ordre international et oblige chacun des pays ou des présidents à revoir sa tactique. On l'a vu avec l'épisode des draps de douane. Et effectivement, il s'est présenté en homme de paix, refusant de jouer les gendarmes du monde, mais il est capable de prendre des accents bellicistes. On l'avait vu il y a quelques années face à la Corée du Nord, et on l'a vu dernièrement face à l'Iran. Son idéologie, c'est qu'il ne pense pas qu'il existe un monde libre, c'est juste un monde de la force pure. Il déteste Netanyahou, il faut le préciser, mais il le rejoint sur la défense d'une idéologie messianique qu'il partage et qu'il applique aux États-Unis avec l'extrême droite chrétienne. Et donc, il est intervenu à sa manière en bombardant l'Iran pour sauver l'État sioniste de l'enlisement, puisque, comme je l'ai dit précédemment, Israël était militairement exsangue. Donc, il y a des moments où il va se sentir à la fois obligé d'intervenir, mais là, son but, le but de son intervention, c'était de sauver l'État sioniste d'une situation dans laquelle il était impliqué et qu'il ne maîtrisait plus. Donc, il a souhaité, pour arrêter cette guerre, faire la guerre. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est exactement ce qu'il a fait. Il est tout sauf fou. Il a préféré être pragmatique avec une certaine idéologie qu'il souhaite appliquer. C'est une personne effectivement imprévisible et peut nous réserver encore des surprises.
Alors, plusieurs questions et hypothèses donc sont parues par rapport au stock d'uranium enrichi de l'Iran. On parle de quelques 408 kg d'uranium enrichi par l'Iran. Alors, ce stock aurait été déplacé par les Iraniens de l'usine d'enrichissement de Fardo avant son bombardement par les USA, selon le chef de l'AIEA, Raphaël Grossi. Avez-vous des informations par rapport à ce stock ?
Alors, je vous confirme que les 408 kilos d'uranium enrichi de l'Iran ont été déplacés. Ou, on ne le sait pas évidemment, puisque l'Iran cultive le secret sur ce sujet-là, et c'est bien compréhensible. Et la chaîne de télévision CNN avait cité des sources qui indiquaient que ces stocks d'uranium enrichi, évidemment, n'ont pas été détruits. Ils confirment qu'ils ont été déplacés juste avant les frappes vers des sites secrets, et que les centrifugeuses seraient en grande partie intactes. Malgré le largage d'une douzaine de bombes anti-nucléaires sur les sites de Fordo et Natanz notamment, et les dommages, en tout cas des infrastructures, seraient modérés. Ces dégâts se seraient limités simplement aux structures en surface. Et dernièrement, le régime iranien, justement, a prétendu que le programme avait été endommagé. Alors, est-ce que c'est la vérité ou tout simplement une ruse pour protéger justement le programme nucléaire iranien ? Vous savez, de toute manière, les Iraniens, d'une manière globale, que ce soit le régime ou la population, est à la fois sous-estimée et diabolisée par l'Occident. Pour m'être rendu plusieurs fois en Iran, j'ai vu une population bien éduquée, érudite. Ce n'est pas pour rien que l'Iran dispose de beaucoup d'ingénieurs qualifiés. Donc, cette sous-estimation a fait également que les États-Unis et l'État sioniste ont été mis en échec dans cette situation.
Oui. Alors, quelle leçon tirer de cette confrontation entre l'Iran et Israël ?
Il y a beaucoup d'enseignements à tirer. D'abord, la plus triste, la plus dommageable, c'est que la primauté de la force désormais prime sur le droit, le respect du droit international. Je pense qu'on l'a malheureusement constaté. L'autre chose, c'est que finalement l'État sioniste est un colosse au pied d'argile, car malgré l'aide militaire américaine, on a vu que son dôme de fer a montré ses limites en termes de résistance. L'image d'Israël est davantage décrédibilisée dans le monde. Monsieur Trump n'est plus président de la paix aux yeux de la communauté internationale et du monde. L'Iran sort renforcé parce que ses répliques, comme je vous l'avais dit, furent ciblées, mesurées, et sa résilience n'est plus à démontrer. Son expérience de la guerre Iran-Irak a montré qu'elle était prête à aller jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. À maintenant, il n'y a aucune preuve démontre que ce programme nucléaire iranien soit endommagé et même qu'il soit réellement un défait militaire. Et dernière chose importante, l'indépendance de l'AIOA est mise en cause puisque on a appris via des informations, alors je vais vous dire plus ou moins crédibles mais peuvent l'être, que l'AIEA, son indépendance est mise en cause parce qu'il y aurait eu des infiltrations de membres de la CIA et du Mossad dans cette institution et l'on connaît l'efficacité du Mossad en la matière. La toute dernière chose que je voudrais ajouter, c'est qu'évidemment l'Europe est une nouvelle fois décrédibilisée et impuissante. On voit l'attitude de la France qui ne sait plus sur quel pied danser. Monsieur Macron, avec son fameux « en même temps », dit une chose et son contraire, et est prêt à défendre l'État sioniste contre toute forme d'agression, alors que dans les faits, c'est l'Iran qui a été à la fois agressé par l'État sioniste et par les États-Unis.
Oui. Pour conclure, assiste-t-on à l'émergence de nouveaux codes de gestion des conflits ou s'agit-il plutôt d'une nouvelle phase d'instabilité à votre avis ?
Alors, les nouveaux codes de gestion des conflits, nous y sommes déjà puisque la guerre en Ukraine nous a montré que la guerre se faisait beaucoup dans les médias, via les réseaux sociaux ou sur X. X, c'est un outil que Monsieur Trump utilise énormément. Et la nouvelle phase d'instabilité, nous y sommes déjà. Je vous ai parlé des accords d'Abraham qui risquent d'être fragilisés. Le fait que le Maroc ait aidé de manière directe ou indirecte l'État sioniste, je pense que ça va faire parler pendant les prochaines semaines également. Par ailleurs, qui peut croire aujourd'hui que le régime iranien, qui était disposé à s'engager dans des tractations avec les États-Unis, qui nous dit qu'ils vont le faire suite à cette attaque ? On n'en sait rien. Et surtout, que feront les États-Unis si Téhéran décidait de se retirer du traité de non-prolifération nucléaire dont il est membre, à la différence de l'État sioniste ? Donc, on a beaucoup d'incertitudes. Je rajouterai aussi les BRICS. Que vont faire les BRICS dont est membre l'Iran ?
Karim Belkacem, merci. Je rappelle que vous êtes analyste géopolitique et professeur en géopolitique. Merci pour toutes ces précisions. Merci pour votre décryptage.
Merci à vous.
Et chers auditeurs, restez avec nous. Nous passons à la dernière rubrique, l'info à retenir.
L'info à retenir.
L'info à retenir. Et nous allons parler ce soir du président américain qui va limiter le partage d'informations classifiées avec le Congrès après les bombardements en Iran. En effet, la Maison-Blanche prévoit de restreindre le partage de ses renseignements avec les parlementaires après que la divulgation d'un document confidentiel du Pentagone a semé le doute sur l'efficacité des bombardements américains en Iran, selon plusieurs médias américains. C'est une décision qui a provoqué la fureur du chef de la minorité démocrate au Sénat. Devant la Chambre haute, l'homme politique a appelé la Maison-Blanche à annuler immédiatement sa décision de limiter le partage d'informations classifiées avec le Congrès après le bombardement en Iran. La chaîne américaine CNN avait révélé la semaine dernière une évaluation de la DIA, la branche en charge du renseignement au Pentagone, affirmant que les frappes américaines sur les infrastructures de Téhéran n'avait pas détruit les parties centrales du programme nucléaire du pays. Donald Trump avait à l'inverse soutenu que les installations iraniennes avaient été complètement oblitérées. Et c'est ainsi que nous arrivons au terme de notre émission. Sachez que le supplément de l'info est disponible sur le site de la radio algérienne et les réseaux sociaux.